Je me souviens d'une légende que m'avait racontée un tzigane, celle de Lilith, la mère de tous les voyageurs. Il y a fort longtemps, dans la vallée de l'Indus, au nord-ouest de l'Inde, Lilith donna naissance à 4 fils. Elle leur donna une mission, sillonner le monde à la recherche d'une terre promise pour leur peuple. Alors, chaque famille voyagea à travers les siècles et les contrées. Elles se servirent de leurs talents d'artisans et d'artistes hors pair pour s'installer aux quatre coins de la terre. Au sud, après un passage par l'Égypte, une partie de ces voyageurs trouva sa place en Andalousie, où on les appelle encore aujourd'hui les Égyptiens et Riptano, les Gitans. En France et en Europe centrale, on les nomma Manouches. En Europe de l'Est, enfin, ils prirent le nom de Rome, qui provient de Domba, ce qui en sanskrit signifie artiste, artisan, qui crée de son esprit et de ses mains. Il est difficile de définir précisément les Roms, tant chaque culture est riche, profonde et a su s'adapter à chaque terre. Rien qu'en musique, une incroyable diversité entre le flamenco d'Andalousie, le jazz manouche virtuose de Django Reinhardt ou les orchestres tziganes survoltés des Balkans. Mais ce qui peut concerner chaque diversité rome, comme pour nombre de peuples nomades et diasporiques, ce sont les innombrables persécutions qu'ils ont vécues au cours des siècles. Saviez-vous, par exemple, que jusqu'à la moitié du 19e siècle, les tziganes étaient réduits en esclavage en Roumanie, ou qu'ils forment la plus grosse minorité ethnique d'Europe aujourd'hui, avec 12 millions de personnes recensées en 2014. Nous sommes aujourd'hui encore trop ignorants de la réalité des Roms. Tzigane viendrait du grec « atinganos », qui veut dire « qui ne touche pas ». Alors ce soir, acceptons d'être touchés par l'histoire des Roms dans cette matinale de Radio Campus Paris. Au sommaire donc de la matinale de ce soir, on reçoit Saïmir Millet, fondateur de La Voix des Roms, et Petré Petkouts, historien, pour parler des 170 ans de l'abolition de l'esclavage de la communauté rome. Ils seront interviewés par Guillaume Bernès. Pour le Zoom, Abel accueillera le rappeur Canard qui sort son nouvel album On est ensemble. Tom nous présentera le flash info du jour. À la chronique actu, nous aurons Tiana. Et pour conclure, Farah nous régalera d'une chronique libre qui parlera du livre qu'elle a écrit avec sa mère. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en Ile-de-France.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on démarre cette matinale avec le grand entretien qui sera mené par Guillaume Bernès. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Vladimir. C'est une date clé de l'histoire des Roms. Le 20 février 1856, l'ancienne principauté roumaine de Valachie proclame l'affranchissement des esclaves tziganes. Une délivrance pour la communauté rome, réduite en esclavage pendant près de 5 siècles. Des personnes vendues, achetées, possédées par des maîtres en plein cœur de l'Europe. 170 ans plus tard, le racisme va bon train. Un Européen sur 4 déclare qu'il se sentirait mal à l'aise s'il devait travailler avec un collègue rome, selon l'Institut Eurobaromètre. Les représentants politiques, eux, continuent de déverser les mêmes discours haineux. Dernier en date, le ministre hongrois des Transports a déclaré en janvier que les Roms représentent une, je cite, « réserve interne de travail qui doit récurer les toilettes dégueulasses des trains ». Alors, doit-on voir dans l'anti-tziganisme d'aujourd'hui des traces de siècles d'esclavage? Alors, avec nous pour en parler, donc, j'accueille Saïmir Millet. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes fondateur et directeur de l'association La Voix des Roms et enseignant de la langue romanie à l'INALCO. Je rappelle que votre association, donc La Voix des Roms, organise une série de conférences, de débats et de concerts. Donc, ça se passe toute la journée du vendredi 20 février à l'INALCO, donc dans le 13e arrondissement de Paris. Et à vos côtés, donc, Petré Petkouts, bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc vous êtes historien chargé de cours de l'histoire des Roms à l'INALCO et à l'université de Bucarest en Roumanie. Alors à vous la première question. En France, on étudie beaucoup la traite transatlantique, beaucoup moins l'esclavage des Roms en Europe. D'abord pour comprendre, pour vraiment s'immerger dans ce sujet, à quoi ressemblait concrètement la vie d'un Rome esclave au 19e siècle ?
La vie d'un Rome esclave au XIXe siècle, elle ressemblait à la vie d'un Rome esclave au XVe siècle, au XIVe siècle. L'esclavage n'a pas beaucoup changé pendant 500 ans. Et en fait, ces personnes-là, elles n'avaient pas de personnalité juridique. Du coup, elles étaient à la merci de toute tâche que leur maître aurait pu leur encomber. Mais encore plus profond que ça, c'est la question pourquoi ils sont tombés en esclavage. Et l'historiographie roumaine a occulté complètement le sujet. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de mémoire ? Il n'y a rien, aucune trace. tout simplement, on a des chiffres au départ, 40 familles, 30 familles, 2 familles qui sont données comme don au monastère ou au boyard.
Boyards, donc, qui sont pour les personnes
qui sont les nobles de l'espace roman. Par le prince du pays. C'est lui qui offre tout, puisqu'il a l'autorité. Il a cette autorité sur les personnes et les biens. En fait, l'esclavage des Roms, c'est un esclavage qui est contemporain à la fondation de l'État médiéval de Valachie et de l'État médiéval de Moldavie. Ces États-là se sont constitués en détruisant des formes politiques sociales des Roms qui étaient déjà sur place. Et ça ne le dit personne. Et je suis justement en train de travailler là-dessus. Et en fait, vu qu'ils ont été vaincus militairement, on les a réduits en esclavage et on a effacé toute trace antérieure de leur présence sur ces territoires. Du coup, la vie d'un esclave, elle dépendait de beaucoup de choses. Surtout, vu que la famille n'était pas un frein aux pratiques de l'esclavage qui étaient de donations, de ventes, d'achats, d'échanges. Donc, la famille ne pouvait pas se constituer comme un rempart contre ces pratiques-là. Donc, la famille n'avait aucune valeur morale ou sociale ou juridique. De plus, le travail, il était... on avait le droit de tout faire avec eux, de leur demander de tout. Donc, on les trouvait partout dans l'économie. Et leur situation était aussi, dépendait aussi un peu de la bienveillance ou du bonne humeur du maître. Il y avait des cas où ça pouvait se passer bien, mais il y avait aussi des cas où ça se passait mal, pouvant aller jusqu'à la mise à mort de l'esclave sans que le maître paye quoi que ce soit.
Est-ce que vous le mentionnez justement, il est difficile en fait d'avoir accès à des traces historiques, à des documents qui nous permettent d'approfondir justement nos connaissances là-dessus. Mais est-ce qu'on a idée du nombre de personnes qui ont été esclaves? Est-ce que concrètement toutes les familles roms aujourd'hui comptent un ancêtre qui a été esclave, ou est-ce que c'est plus difficile que ça, plus subtil?
Et en fait, la loi du pays disait que tout tzigane sans maître sera inscrit parmi les esclaves du prince, et que tout tzigane né d'une mère tzigane, il est esclave, sauf les roms qui pouvaient venir de l'Empire ottoman, qui étaient musulmans. Ils n'étaient pas réduits en esclavage. Concernant leur nombre, il est assez important. On n'a pas des chiffres antérieurs au 19e siècle, des chiffres globaux, mais au 19e siècle, on voit que les esclaves de Valachie et de Moldavie étaient d'environ 250 000. Lors de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, ce qui signifiait 7%. Je veux clarifier une chose. En fait, les documents qui manquent, ce sont surtout les documents qui parlent de l'origine de l'esclavage. Mais après, les 5 siècles d'esclavage sont bien documentés. Sauf que très peu d'historiens se penchent là-dessus. Ils sont très très bien documentés. Il y a une information extrêmement riche qui attend justement d'être mise en valeur.
Comment vous expliquez cette zone d'ombre, cet angle mort des historiens?
Tout simplement parce que déjà le récit historiographique, le récit national, il n'intègre pas cet épisode de l'esclavage, puisque ce n'est pas quelque chose on ne peut pas être fier de cet épisode. Et deuxièmement, lorsqu'on s'occupe de ce sujet, la première question qui nous est posée, elle est: pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous êtes tzigane? Ce qui veut dire vous êtes le descendant d'un esclave, vous êtes la pire chose de la société. On ne veut pas être confondu en tzigane. Et dernièrement, ce sont les documents qui sont écrits en alphabet cyrillique. Et pour les premiers siècles de l'esclavage, en slavon. Et ça complique un peu la tâche, surtout des historiens occidentaux qui auraient pu compenser le manque d'intérêt des Roumains.
Est-ce que cette histoire de l'esclavage des Roms a été officiellement reconnue par la Roumanie ? Quelle est la position de l'État roumain aujourd'hui sur cette histoire ?
L'État roumain reconnaît cela. Le 20 février est reconnu comme une date commémorative de l'abolition de l'esclavage. Mais il ne veut pas faire plus. En fait, moins on sait, mieux c'est. Parce que ouvrir ce chapitre posera la question de la mémoire, de construire un musée national pour les Roms, de parler de l'intégration, de parler de la représentativité politique qui a été tout le temps vidée de tout son sens après la fin de l'esclavage. Beaucoup des sujets qui sont sensibles et dont l'État, pour l'instant, il ne veut pas faire grand-chose. Éventuellement, sous la pression de l'Europe, la situation pourrait changer, mais pour l'instant, non.
Est-ce qu'on voit des personnalités politiques en Roumanie qui essaient de pousser ce sujet, peut-être des députés roms qui...
Il y a un député rom dans chaque mandature parlementaire, mais sa voix, elle est très faible, vu qu'il est seul parmi les centaines de députés de la majorité. Et la voix de la société civile, la plus facile manière de la faire taire, c'est d'offrir des emplois aux leaders. Et après, tu peux les manipuler comme tu veux. Et c'est extrêmement compliqué de sortir. La voix... Elle doit venir du bas. Si elle ne vient pas du bas, elle va jamais se faire entendre.
Et pour qu'elle vienne du bas, un bon moyen, c'est notamment la culture, la connaissance et l'éducation. Est-ce que dans les manuels scolaires en Roumanie, est-ce qu'on parle de cet épisode ou est-ce qu'il est encore absent ?
Il est présent comme cours optionnel pour les classes, pour les enfants de 12-13 ans qui... les parents de ces enfants, en fait, doivent faire la demande pour que leurs enfants puissent étudier l'histoire des Roms. Mais sinon, dans les plus grands ouvrages, les encyclopédies d'histoire de la Roumanie, sur des milliers de pages, on a deux pages qui parlent de l'esclavage. Donc, c'est complètement périphérique.
Merci beaucoup, Petre Petkouts, pour ces éclairages et Samir Millet. On reprend cette interview après une petite pause musicale en écoutant une musique dans le thème, puisqu'elle nous vient aussi des Balkans. Dumba la Dumba, dit Taraf Te Aydouk.
Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dai dumă dacă dai dumă la la, rec dacă dumă dacă dai dumă la la. Continental, vin de carne fără oase la gagicile frumos. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. O, da dumă la la dum, dacă dumă la că dai dumă la la. O, da dumă la la dum, dacă dumă la că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la că dai dumă la la. Dum, dacă dumă la că dai dumă la la. Dai dumă la că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la că dai dumă la la. Mai paro talento, ai dono da da dono da 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 dono da la, ai dono da da dono da 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 dono da la. Oh, dad malala, dum dagad malaga, dad malala. Oh, dad malala, dum dagad malaga.
C'était Dumba la Dumba du Taraf de Haïdouk. Il est 19h16 et vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et nous sommes toujours avec Saïmir Millet et Petré Petkouts pour parler du racisme envers les Roms en Europe et en France. Guillaume Bern, c'est à toi.
Alors, on continue notre remontée dans le temps. Alors, je rappelle qu'en 1856, donc la loi l'ancienne principauté de Valachie a consacré la liberté juridique des Roms. Saïmir Millet, je me tourne vers vous. 170 ans plus tard, est-ce que cette liberté, elle a pleinement accompli ses missions en Roumanie, mais plus généralement en Europe? Est-ce que les Roms, on peut dire, ils ont une totale liberté aujourd'hui?
Alors, distinguons les descendants des esclaves de ceux des Roms, qui sont la majorité en fait, et qui n'étaient pas esclaves. D'abord, pour ceux qui ont été affranchis, ils ont été affranchis, effectivement, c'était l'acquisition d'une liberté juridique. C'est-à-dire que pendant la période de l'esclavage, ils n'étaient pas considérés comme des personnes, ce n'étaient pas des personnes, donc ils n'avaient pas de personnalité juridique, ce n'étaient que des propriétés, des biens meubles qui appartenaient à des propriétaires divers, depuis le prince jusqu'au monastère, aux nobles, aux boyards, etc. Donc, avec l'abolition de ce régime, parce qu'il s'agit bien d'un régime juridique, une loi donc qui change, on ne peut plus posséder d'esclaves. Il y a eu des compensations pour les anciens propriétaires qui perdaient de leur richesse, parce que c'était vraiment des biens meubles. Il n'y a pas eu de compensation ni de mesures pour l'émancipation des affranchis. Donc, depuis 170 ans, il n'y a jamais eu de véritable mesure pour que les affranchis, puis après leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi de suite, deviennent partie intégrante de cette nation roumaine qui se constitue à ce moment-là, au milieu du XIXe siècle, et qui forme un État qui se veut moderne, qui se veut occidental. Et pas seulement qu'il n'y a pas eu de mesure positive pour que finalement, ils deviennent des citoyens de ce nouveau pays moderne. Mais l'histoire a été... elle a bégayé. C'est-à-dire que, Seconde Guerre mondiale, il y a une déportation en Transnistrie, dans des zones marécageuses où ils étaient maintenus en internement pendant des années. Donc la persécution s'est poursuivie, le racisme n'a fait que s'augmenter, et de manière qui peut paraître un peu paradoxale, finalement, ce n'est que la période communiste qui a eu du positif, parce que à ce moment-là de l'histoire, la distinction ne se faisait plus officiellement, en tout cas, sur une base raciale, mais sur une base idéologique. Et donc, depuis 170 ans, le communisme non plus, ce n'était pas des mesures positives, hein, c'était juste une chape de plomb sur toute idéologie raciste, ce qui n'empêchait pas, par ailleurs, le racisme quotidien de s'exprimer librement, et les voies de recours quand on se faisait traiter de tzigane et quand on nous refusait des droits, c'était pas toujours aisé. Donc ça, c'est en ce qui concerne les descendants des esclaves affranchis. Mais ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'on croit, et puisqu'on s'adresse à des étudiants, on a le programme Erasmus, des étudiants qui circulent d'un pays à l'autre, qui font un semestre ici, un semestre là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les idées en Europe ont toujours circulé. Les idées, les concepts, les chercheurs, les savants, etc. Et donc, après l'abolition de l'esclavage, beaucoup de Roms Et c'est le 19e siècle où beaucoup d'Européens bougent, et donc parmi eux, beaucoup de Roms aussi, depuis la Roumanie, ils bougent en Russie, en France, certains font en Russie d'abord, puis après ils viennent vers l'Occident, et jusque, quand je dis l'Occident, parfois ça va jusqu'en Amérique latine ou en Amérique du Nord, et circule cette idée du tzigane, qui, dans les principautés roumaines, tout à l'heure, en introduction, vous aviez donné l'étymologie du terme tzigane qui vient du grec. Étymologiquement, le mot tzigane vient du grec. Mais sémiologiquement, c'est-à-dire du point de vue du sens que ça prend, c'est les principautés roumaines, pendant 500 ans d'esclavage, qui donnent le sens au mot tzigane. Et le mot tzigane, en roumain, veut dire esclave. Comme le mot « roumain » en roumain veut dire « serf », « paysan libre ». Ce n'est qu'avec l'avènement de l'État roumain que le mot « roumain » prend un sens ethnique et national, de citoyenneté. Jusque-là, il ne désignait que la classe paysanne dans son ensemble, donc c'était la majorité de la population, et donc la nation roumaine est la successeur de la classe de la paysannerie, hein, des serfs. Et dans ce processus, les tziganes sont laissés dehors et il le reste encore aujourd'hui. Ce que disait Petre tout à l'heure, quand on s'intéresse au sujet de l'esclavage, on nous pose la question, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Est-ce que vous êtes tzigane? Et donc ça met mal à l'aise. C'est parce qu'on fait toujours cette distinction. Le roumain, c'est celui qui est légitime sur ce pays, qui est le citoyen du pays. Le tzigane, il est là par malheur, par hasard, il n'est pas censé être là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en France, d'où l'engagement de la Voix des Roms sur ce sujet, et qu'on trouve en France, mais qu'on trouve dans d'autres pays aussi, cette dichotomie qu'on fait entre le local, citoyen et légitime, et le tzigane, qu'on peut appeler aussi nomade, comme on l'a fait en France à la même période, 19e siècle, avec un régime juridique à part dont la République française, la Troisième République française, a créé un statut juridique discriminatoire qui a permis l'internement en France de ce qu'on appelait nomades, qui s'est poursuivi au-delà de la guerre jusqu'en juin 1946, et un statut juridique discriminatoire qui a perduré jusqu'en 2017. Avec un statut particulier des gens du voyage, discriminatoire, reconnu comme tel par des instances internationales, par l'ONU. Voilà, donc c'est ça qui explique cet événement qu'on organise le 20 février à l'INALCO, et pourquoi nous, ici en France, à Paris, on s'intéresse au sujet, pas seulement parce que Petre est aussi à Paris et qu'il travaille sur ce sujet, mais c'est aussi parce que c'est un sujet qui concerne tous les jours des milliers, des centaines de milliers de citoyens français ou étrangers, mais la majorité sont français. Et c'est cet anti-tziganisme, en fait, qui est l'héritage de la période d'esclavage, comme l'héritage aussi d'autres mécanismes qui ont eu lieu ailleurs, en France et ailleurs.
Justement, vous avez aussi évoqué donc ces deux moments traumatiques en fait dans l'histoire des Roms, qui a été du coup cette période de l'esclavage. Vous avez aussi évoqué donc la période de l'Holocauste. Dans la mémoire justement des Roms, est-ce que ces deux moments ont le même poids aujourd'hui? Est-ce que il y a vraiment une même connaissance et un traumatisme aussi aigu pour cette période d'esclavage que pour plus récemment l'Holocauste, qui avait fait donc, alors les chiffres varient, mais autour de 250 000 personnes assassinées, si on prend le groupe.
500 000 plutôt.
Oui.
Mais en fait, au-delà des chiffres et au-delà de. Ce sont des traumatismes qui, parce que nous n'avons pas été. Quand je dis nous, je parle des Roms, hein, en tant que peuple dispersé, très dispersé. Est présent partout, par conséquent, mais présent partout en situation de minorité numérique et politique, nous n'avons pas eu d'organisation politique qui mettrait à leur place chaque événement important de notre histoire. Et notre histoire, elle est inconnue par le grand public, mais elle est aussi inconnue par nous-mêmes. Personne n'apprend l'histoire de son peuple par sa grand-mère. On est d'accord ? L'histoire d'un peuple, ça s'enseigne dans une école. Et parfois, les grands-mères et les grands-pères disent à leurs petits-enfants des choses qui ne sont pas celles qu'on nous enseigne à l'école, parce que l'historiographie est un mécanisme entre les mains d'un pouvoir qui change, et d'une idéologie qui peut changer aussi. Nous, nous n'avons pas ça. Donc nous avons accès, plus ou moins d'ailleurs, à une éducation au même titre que les autres, à une scolarisation au même titre que les autres, au même manuel d'histoire, ou alors de manière optionnelle, comme le disait Petre tout à l'heure, mais on n'a pas... Ce sont des traumatismes qui laissent des traces et qui créent ensuite des comportements, des manières d'être, des manières de réagir, qui sont là et qui sont parfois interprétés en termes de culture, de traits culturels, sans que personne ne se pose la question d'où ces comportements, ces réactions viennent. Donc, qu'il s'agisse de l'esclavage ou du génocide, par la suite, ou de l'internement, on n'a que des bribes de connaissances, parce que, et c'est très important de le dire, les gens traumatisés par ce genre de traitement inhumain, la réaction psychologique normale de l'humain est de bloquer, de ne pas parler des horreurs. Il faut faire sortir la parole, il faut la faire émerger, la parole des victimes qui ont subi ce genre de choses. Donc il y a très peu qui est transmis par ceux qui l'ont vécu, et on n'a pas autrement de historiographie à nous.
Et alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Justement, pour terminer, alors, des mesures ont été adoptées alors, par la Commission européenne en 2020. Donc, la Commission européenne a dévoilé une nouvelle stratégie pour, donc, je cite, améliorer l'inclusion des Roms dans les sociétés européennes d'ici 2030. Est-ce que, dans le même temps, quelque chose est justement... est-ce que, pour vous, il y a des actions qui sont assez mises en place pour améliorer l'historiographie, l'étude de l'histoire, en fait, des Roms?
Alors, la Voix des Roms coordonne, justement, le monitoring de la politique publique nationale française, la stratégie nationale française, pour la mise en œuvre de ce cadre européen. Et franchement, il n'y a quasiment rien. Nous faisons beaucoup de sensibilisation justement auprès des décideurs pour dire que l'inclusion, ce sont les mots clés de ce cadre européen, c'est l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms. Et nous, ce qu'on répond à ça, c'est qu'il ne peut y avoir ni inclusion, ni égalité, ni participation tant que les Roms eux-mêmes n'auront pas recouvré la possibilité de se définir, de se dire « nous sommes ceci et pas cela ». Et pour y arriver, pour y parvenir, il faut se réconcilier avec l'histoire, que ce soit en France ou ailleurs, et laisser la possibilité donc à nous de nous approprier qu'on nous a confisqué depuis des siècles, c'est-à-dire notre droit d'être nous-mêmes pour être avec les autres.
Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin, on n'a plus beaucoup de temps et ça sera l'occasion notamment d'approfondir tout ça le vendredi 20 février à l'INALCO par l'événement que vous organisez. Merci beaucoup Saïmir Millet d'avoir été avec nous et merci beaucoup Petre Petkouts d'avoir été avec nous. Merci Guillaume pour cette interview. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris et c'est l'heure du Flash Info qui nous est présenté ce soir par Tom.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous, bonsoir la matinale. Au premier titre de l'actualité ce soir en France, toujours dans l'affaire du décès de Quentin Derenque, un militant d'extrême droite de 23 ans agressé à Lyon la semaine dernière. Le procureur de la République de la région, Thierry Drane, a tenu une conférence de presse à 16h aujourd'hui. Le parquet avait précisé hier dans un communiqué que l'enquête s'oriente à présent sur l'identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles. Celui-ci annonçait aussi avoir recueilli plusieurs témoignages significatifs. L'ultra-gauche était à la manœuvre, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Il avait aussi déclaré dimanche sur France 2 que les premiers éléments de l'enquête permettaient de supposer qu'un groupuscule d'ultra-gauche était impliqué dans le décès du jeune homme, selon ses propos. Et puis à Paris cet après-midi, la statue Place de la République a été taguée par des croix gammées et des slogans antisémites appelant au meurtre de personnalités de confession juive, notamment Jack Lang et Rothschild. La mairie de Paris Centre a indiqué que la statue allait être nettoyée et compte porter plainte. Les auteurs devraient être retrouvés grâce aux caméras de surveillance situées non loin. Bien qu'en 2025, les cas d'actes antisémites aient diminué de 16% par rapport à l'année précédente, ils n'ont jamais été aussi forts que ces trois dernières années, selon le ministère. Et puis à l'étranger désormais, à Madagascar, après le passage du cyclone Guezani, un nouveau bilan officiel fait état de 59 morts au minimum et de 15 personnes encore portées disparues. À Toamasina, la deuxième plus grande ville du pays, les vents ont frappé le nord-est avec des rafales soufflant à 250 km/h. Guezani est passé très au large de l'île de la Réunion notamment, engendrant de simples pluies. Et puis à Genève en Suisse, de nouvelles négociations ont lieu entre les États-Unis et l'Iran à propos du programme nucléaire iranien. Ce nouveau volet de discussion indirecte doit débuter demain, selon Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères iranien est déjà présent sur place. De son côté, la Maison-Blanche a confirmé dimanche soir que son émissaire Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, se rendraient à Genève cette semaine pour ses pourparlers. Et pour finir, par le sport, par du positif ou pas, il ne reste plus qu'une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. La France est 7e au classement avec 15 médailles pour 4 en or. Malheureusement, les Français sont passés totalement à côté du slalom cet après-midi, remporté par le Suisse Loïc Meillard.
Merci Tom pour ce flash info. On enchaîne avec une petite pause musicale en écoutant I Dance With Another Love In My Dream de Bridget Calls Me Baby. C'était I Dance With Another Love In My Dream de Brigitte Calls Me Maybe. Call me maybe. Il est 19h36 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h.
Et le Zoom dans la matinale de 19h.
On va commencer d'abord par la chronique actu de Tiana. Salut Tiana, tu nous parles de l'abrogation par l'administration Trump de la loi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est à toi. Petit problème de micro. Vas-y Tiana, c'est à toi, c'est parti.
Les États-Unis, ce pays très écolophobique, comme tu l'as dit Vladimir, poursuit son combat pour le réchauffement climatique. Jeudi dernier, Donald Trump a révoqué un texte qui limitait l'émission de gaz à effet de serre. Ce texte avait été adopté en 2009 par l'Agence de protection de l'environnement, l'ACE, et il avait permis de limiter au niveau fédéral l'émission de CO2 et de méthane qui étaient principalement rejetées par les voitures et les camions. Pour se justifier de cette décision, M. Trump a décidé que cette loi n'avait aucun fondement juridique. Les gaz à effet de serre seront, selon lui, ne devraient pas être traités comme des polluants au sens traditionnel du terme, car leurs effets sur la santé humaine sont indirects. Et puis, à l'échelle mondiale, ils n'ont qu'un réel impact à l'échelle mondiale, pardon, et non pas sur notre ville ou sur notre foyer. Donc, selon lui, ça n'impacterait pas tant que cela notre quotidien. Puis bizarrement, ce texte limitait surtout la production de charbon et de pétrole. Il le dit lui-même que cette décision serait favorable à cette industrie. Elle permettrait à la fin de réduire le coût des voitures neuves et cet argument économique chercherait à rassurer ses citoyens qui s'inquiètent de la baisse de leur pouvoir d'achat. Comme on peut le constater, cette abrogation, pour des motifs juridiques à la base, va en faveur de son programme économique. Mais revenons sur ses anciennes déclarations pour comprendre que cette décision n'est que la suite logique de son plan contre l'écologie. Déjà, à la suite de sa nomination en tant que président des États-Unis fin 2024, il avait annoncé que le pays se retirerait à nouveau des accords de Paris pour le climat. Janvier dernier, il s'était également retiré de 66 organisations, attention qui ne portait pas toutes sur la question environnementale, mais où paraissait le GIEC, soit le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Plusieurs comités scientifiques prévoient de le poursuivre en justice pour cette décision, une de plus qui met en danger l'avenir de la planète. L'affaire pourrait remonter à la Cour suprême, qui est le tribunal de dernier ressort aux États-Unis, mais face à cette bataille judiciaire, la planète, elle, n'attendra pas.
Merci Tiana pour cette chronique actu. Restez avec nous sur Radio Campus, il va y avoir de la musique et du rap pour le Zoom de la matinale.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et pour le Zoom, on a le plaisir d'accueillir le rappeur Canard qui sort un nouvel album avec moi, Abel. Salut Abel, c'est à toi.
Salut Vladimir, salut Tiana, salut Canard. Voilà une phrase que je ne m'attendais pas à dire aujourd'hui. Alors tu viens, Canard c'est ton nom d'artiste, tu viens aujourd'hui nous parler de ton nouvel album qui s'appelle On est ensemble, qui a été fait en collaboration avec le producteur Soap. Déjà, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots ?
Bonjour, moi c'est Canard. Déjà je fais une toute petite note, c'est que la matinale de 19h c'est vraiment un titre qui me touche énormément. Sur l'album on a un son qui s'appelle 5h du mat et on augmente les heures, ça parle d'after et on est 5h, 7h, à la fin on est à 13h du mat, 15h du mat, etc. Donc la matinale de 19h c'est exactement là où je me situe mentalement. Je m'appelle Canard, je rappe sur de la techno. Je kiffe faire de la scène. Sur scène, on est un mélange entre un concert de rap, une rave party, un drag show. Et je viens de sortir un album en CD, en vinyle et sur toutes les plateformes gratuites et payantes qui s'appelle On est ensemble.
Trop bien. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'appelles Canard ?
Je m'appelle Canard pour notamment l'histoire du vilain petit canard, qui est une super belle histoire. Et aussi parce que en arrivant dans ce milieu assez masculiniste, qui est le rap, qui est le monde même en général, en arrivant dans ce milieu masculiniste, qui est le monde, je me suis dit que c'était bien de représenter pas les personnes qu'on juge super fortes et victorieuses, mais tous les autres.
Trop bien. Et en fait, là, tu viens quand même nous parler de ton premier album. Et il y a une différence entre un album et une mixtape. Info de dingue. Mais je dis ça parce que toi, t'as déjà fait des mixtapes. Et aujourd'hui, tu dis que tu sors un album. Et pourquoi cet événement est plus important pour toi ? En fait, c'est quoi cette différence ? Et pourquoi pour toi, il y a une différence ?
La différence, elle vient du fait que... Donc, on est ultra indé. On fait vraiment les choses à bout de bras, comme de la cuisine, comme du commerce de proximité. Longue vie à la décroissance. Et donc du coup, là notamment, on a décidé de le sortir en physique. Donc il est sorti en vinyle, en CD, et je pense que ça venait aussi de ça. Ensuite, il y a aussi le nombre de titres, parce que jusqu'ici j'ai fait des EP qui étaient donc des 6 titres ou alors des singles, et que là on a 12 titres, et donc c'est la durée d'un album. Et en vrai, c'est, je sors les trucs aussi simplement que ça, quoi. C'est pas un effet d'annonce de dire c'est un album, c'est juste, on a eu envie de faire du son avec Soap, on a sorti 12 morceaux, ça fait 40 minutes, on est super fiers, on appelle ça un album, c'est le premier, c'est le bonheur.
Et tu disais que vous y êtes tout en indé, donc je shout out ton clip qui a été fait entièrement avec les Sims, qui est très stylé. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ?
Bah déjà, n'hésitez pas à aller le voir, on est super fiers de ce clip. C'est le clip de On est ensemble. Et donc, on l'a tourné entièrement dans les Sims 3. C'est mon amoureuse Alizée qui l'a fait. Et donc, on était chez nous et elle kiffe trop les Sims. Elle a joué aux Sims pendant 25 heures en créant nos dégaines à nous, ainsi que tous les le beatmaker Soap, Pauline Sampleur qui chante sur le morceau, les gens avec qui on est sur scène. Et donc, on a fait toute une histoire. C'est notre plus gros tournage. On kiffe faire des clips, mais là, c'est vraiment, c'était 25 heures de tournage. On avait 5 heures de rush à la fin, et maintenant on a un clip de 2 minutes 20.
Est-ce que tu as essayé de mettre une direction artistique, un chemin de création artistique dans cet album ?
Il y a une direction artistique, en vrai c'est moi, et ensuite je suis un support de projection pour vraiment plein de gens différents, et donc il y a des clips qui se font, il y a des photos qui se font. La photo de la pochette par exemple, c'est donc moi avec une grande boule disco dans la main, et c'est une vraie photo, c'est-à-dire on était en teuf, j'ai fait tomber une immense boule disco et je cherchais un outil pour pouvoir la refixer, et donc pendant que je me baladais on a pris la photo de moi. Donc en vrai c'est l'honnêteté de ma vie et tous les gens qui ont envie de s'exprimer, et ça crée un tout. Je sais pas s'il est, enfin il est cohérent dans le sens où c'est ce que c'est, quoi, mais il n'y a pas de réflexion avant. On réfléchit pas à la direction artistique, quoi. C'est on fait des trucs, mais ensuite une fois qu'ils sont faits, si on en est content, on les sort.
Oui, parce que de ce que j'entends, la teuf, c'est un univers quand même qui fait partie intégrante de toi. Et je trouve que ça se ressent un peu dans ta musique. On a cette impression d'être dans une soirée, d'être presque un peu sous drogue. Vous m'excuserez le terme interdit. Mais voilà, c'est vraiment une sensation qu'on a, surtout avec ta voix tranchante qui parfois répète beaucoup de choses. Je pense notamment à Essayer Chou, qui a ce côté ultra répétitif comme ça. Donc c'était assez intéressant de voir que ça correspond bien à ta personnalité. Et je voulais revenir sur ce que tu avais dit sur l'antipatriarcat et sur le masculinisme, parce que tu arrives quand même dans un milieu qui est le rap, qui est, comme tu le dis, ultra masculin et masculiniste, et je voulais savoir comment toi tu t'appropriais le sujet et comment c'est d'être un rappeur déconstruit dans le rap.
Alors bah, y a quand même un, moi de mon expérience, il y a vraiment un truc d'honnêteté dans le rap, dans la culture hip-hop d'ailleurs. Et en fait, à partir du moment où on est honnête, ça passe. Donc moi, franchement, j'ai jamais eu de problème dans des open mic beaucoup plus rap, plus classique, disons. J'ai toujours eu ma place et en toute tranquillité, même si bah, j'avais des propos qui n'étaient pas forcément les mêmes que les autres, des axes qui n'étaient pas forcément les mêmes. Mais en fait, si tu n'essaies pas de t'approprier quelque chose, mais que juste tu le fais avec honnêteté, franchement, cette énergie-là, elle fait qu'on n'a pas envie de commenter, quoi.
Et s'il y a bien une chose qu'on remarque, c'est la croisée des chemins que tu prends du coup entre la free party, l'électro, pas l'électro versaillais, hein, on parle bien de le monde de la rave et le rap, et c'est quand même deux mouvements avec une volonté contestataire. Est-ce que c'est une volonté du projet ?
Alors ça, grave. Donc mêler la scène techno et la scène rap, c'est exactement ça, mais c'est aussi parce que pareil, c'est moi, je viens de là, quoi. Moi, je kiffe ces deux musiques, je kiffe ces deux styles. Je suis sorti autant dans des concerts de rap où on était là, c'était le karaoké, on chantait tout ce que le rappeur, la rappeuse chantait sur scène, et autant des free parties où on danse dans des couloirs de musique électronique pendant 10 heures, 12 heures, pendant plusieurs jours. Et il y a plein de choses que tu retrouves dans les deux. Déjà, en vrai, si on fait un peu d'histoire, les machines qui étaient utilisées pour faire de la techno au début et de la house, et les machines qui étaient utilisées pour faire du rap, c'était les mêmes, quoi. C'est les mêmes boîtes à rythme, c'est juste elles sont mises à des BPM différents. Donc déjà, de toute façon, il y a cette impulsion-là qui, en fin de compte, est la même. Et ensuite, nous, c'est nos deux milieux, tout comme avec le milieu du drag, des drag shows, etc., des cabarets, c'est vachement notre milieu. Et en fait, on ne fait que mélanger tout ce qui fait partie de nous. Et en vrai, on se rend compte de comment ça marche. Enfin, on mêle aussi les publics et les publics s'entendent très bien et s'apprennent des choses, que ce soit comment on fait un pogo, comment est-ce qu'on saute dans la foule, comment est-ce qu'en fait on répète des refrains, ce qui n'est pas habituel dans la techno et très habituel dans le rap. Et donc, c'est ce mélange-là qu'on adore. Et en effet, c'était vraiment une ligne directrice du projet.
Et on le rappelle, l'album s'appelle « On est ensemble » et je vais poser une question qui sonne un peu qu'à l'époque avec Léa Salamé, mais en fait, t'es ensemble avec qui ? Parce que t'avoueras quand même qu'être ensemble avec Zemmour ou Rosa Parks, c'est pas exactement pareil.
Alors, c'est pas pareil. Et en fait, il y a un problème physique, et c'est que géographiquement, on est ensemble. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, on a les pieds qui sont posés sur la même terre que les gens qu'on adore et les gens qu'on déteste. Et donc, en effet, l'album, il est aussi grave là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait... D'ailleurs, même le morceau « On est ensemble », il est un peu dans cette dualité-là, avec ça commence super, super joyeux, avec de la dance, etc. Et après, on part dans une électro beaucoup plus bizarre. Et là, c'est plus moi qui me demande, bon, bah ok, on n'a pas arrêté de répéter qu'on était ensemble, mais concrètement, ça dit quoi ? Donc l'idée, c'est plutôt... Il y a aussi une phase qui dit... on est ensemble même quand on l'est pas, et donc c'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire de savoir les gens avec qui on est ensemble dans la même direction et comment ça peut irradier pour que les gens qui sont géographiquement ensemble avec nous et donc ou qui nous entendent quoi par les ondes ou par la vidéo ou par tout ça, par les énergies, et ben ces gens-là ils puissent être irradiés et en fait peut-être rejoindre cette philosophie moins toxique. En vrai, ça me trigger grave le nom que t'as dit qui commence par Z. Et donc, je le répète pas pour pas faire de la publicité. Mais grave, on réfléchit là-dessus en tout cas. Comment être ensemble ?
Une dernière petite question du coup, avant que tu nous montres un peu à quoi ça ressemble concrètement. Toi du coup, ce morceau que tu vas nous jouer là, qui s'appelle Longue Vie, je crois, qui va arriver bientôt. Tu peux nous dire un peu de quoi il parle ou tu laisses le morceau parler pour lui-même ?
Je suis venu là, je réponds aux questions avec plaisir. Donc je réponds à cette question notamment. Et en l'occurrence, en plus, celui-là, il a presque une petite histoire. C'est que vraiment, je l'ai écrit après 4 jours de fête. Et donc vraiment, en arrivant chez moi, même un peu sur le chemin, en rentrant chez moi à pied. Et il y avait vraiment l'idée justement d'être un peu honnête avec c'est quoi les pensées que j'ai dans ma tête maintenant. Et donc en oscillant entre de l'espoir et peut-être de la tristesse. Et ça, pour le coup, pour les émotions, je vais laisser le morceau parler lui-même.
C'est parfait.
Mais en tout cas, pour l'intro, c'est ça.
Trop bien. Et ben, on écoute tout de suite Longue Vie en live direct avec Canard.
Radio Campus, Canard et toutes les personnes qui écoutent, on est ensemble. Lèvres mouillées par le whisky sec, gorge sèche pour vide immense, grand désert rempli de cendres, confondent la montée et la descente, cœurs qui font comme plastique sur briquet. On se trouve des petits noms, des sauts briquets, cherche un abribus où s'abriter, rouler sous la pluie, faut s'appliquer, lésions dans le crâne, on a appuyé, abusé pour s'amuser, le coup on va l'accuser. Organes vitaux, v'là usé. Le feu s'amouille, ouais, regarde ma sueur. Passé une certaine heure, y'a plus d'heure. Passé un certain cap, y'a plus de retour. Après plusieurs jours, y'a plus beaucoup d'amour. Beaucoup de mariages, encore plus d'amants. Le passé, c'est juste le futur d'avant. Coffre vide, ça c'est le testament. Si t'as un corps, ton corps est à vendre. Si t'as une âme, je t'en parle même pas. Je sais qu'elle me kiffe, je dis qu'elle m'aime pas. Les chansons tristes, elles sont pour toi. Les chansons de joie, y'en a peu. Tu trouves ça laid, on trouve ça beau. On fait ce qu'on peut mais on sabote. On s'accroche, on croit qu'on se rapproche. Tes mecs bien pour nous des salauds. Tu trouves ça cool, on trouve ça moche. Tombé bourré et on s'amoche. Tombe amoureux, tu t'améliores. Tu te déchires mais tu deviens meilleur. Les mille morceaux ça c'est dans le cœur. Et le mal de cœur ça c'est dans la tête. T'en as pris trop, juste arrête.
bois de l'eau, amen. Toujours plus mais jamais assez. On recommence parfois, on s'assoit, on discute et on oublie. On s'est noyé nos soucis, y'a tout qui est à nous, y'a rien qui à soi. Quand on se voit c'est souvent le soir, quand on se quitte c'est souvent plus tard. Parfois quand tu le veux tu l'as, mais quand tu l'as t'en veux plus. Dommage, concours de vitesse dans la chute. De base y'a pas de pneus dans le shit. Tu fais circuit, courir de court-circuit. Croque le vivant comme des boulimiques. Qu'est-ce que je fous ici, c'est tout pourri. Les copains, les copines sont toutes bourrées. On pensait planer, on a tout coulé. On pensait gagner, on s'est tous gourés. Le poteau a appelé, on a déboulé. Tu trouves ça tout mignon, on trouve ça tout laid. Grand écart entre ce que t'as et ce que tu voulais. On fait du mal mais c'est pas voulu. Quand on réussit, ouais c'est pas volé. On essaye, on échoue, abonné. Mon cœur c'est tout ce que j'ai, je lui ai donné. Elle l'a pas rendu, ça va ou c'est redu. Encore, 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 jamais rebu. Abusé comment on kiffe les abus. Tu regardes des messages laissés en vue. Emprisonné, profite de la vue. Se détruire tous les jours, c'est ça la vie. Tout le monde parle trop, ouais, y'a trop d'avis. Moi je ferme ma gueule car je suis sûr de rien. Je sais qu'aujourd'hui c'est déjà demain. Voir l'envie bien rangée passer son tour. Leurs vieux modèles sont pas à nos goûts. J'aime bien quand elle est pendue à mon cou. Mais elle, elle veut juste se pendre tout court. Le poids de la ville sur les épaules. On cherche des réponses mais on sait pas. Tu trouves ça nul ou on trouve ça beau. Tu juges nos vies mais t'en sais quoi. Les défaites s'essuient, les fêtes se nettoient. Dans le ciel à ce qui paraît y'a que des étoiles. Mais on les voit pas à Paris vu des toits. Les bons amis tu les comptes sur tes doigts. L'espace c'est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie, ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. L'espace c'est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie, ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. L'espace c'est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie, ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. L'espace c'est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie, ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. Ça vient vrai, alors répète, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si tu le répètes, peut-être ça devient vrai, alors répète, tout va bien, encore, tout va bien. Oui, tout va bien. Si tu le répètes, peut-être ça devient vrai, alors répète, tout va bien, encore, tout va bien. Oui, tout va bien. Si tu le répètes, peut-être ça devient vrai, alors répète, tout va bien. On est ensemble même quand on l'est pas. N'hésitez pas à checker. Si vous avez kiffé, c'est le bonheur. Et si vous avez pas kiffé, faites écouter à vos ennemis.
C'était Longue Vie de Canard. Merci énormément d'avoir été avec nous. Ton album On est Ensemble est dispo sur toutes les plateformes. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h54.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on attend tout de suite, parce que c'était trop la folie dans la régie, parce qu'ils bougeaient tous trop la tête. C'est l'heure de la chronique libre et j'accueille Farah qui arrive en trombe. Farah, je te laisse reprendre ton souffle tout tranquillement. Ça va Farah ?
Ça va et toi ?
Ouais, ça va tranquillement. Allez, et ben c'est parti pour ta chronique. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que je coécris avec ma mère. Et ça s'appelle « Musulmane et fan de porc ». Il y a un mois, j'étais venue vous partager ce rêve que ma mère a de raconter son histoire dans un livre. Et donc, du coup, depuis le 1er janvier, c'est ce qu'on fait, chapitre après chapitre. Aujourd'hui, on est sur un compte à rebours qui a commencé, pile poil à mi-parcours. On n'a plus qu'un mois et demi pour terminer ce fou projet. Du coup, je vais vous lire un passage du premier chapitre. Est-ce que vous êtes prêts ?
Ouais, je suis super chaud.
J'attendais une ambiance folle avec... Mais voilà, on va
tous les gens, ils sont en régie, ils sont pas mais dans le studio, ça, mais on les entend, public, ils applaudissent très fort, mais on les entend pas.
Merci, quel soutien, merci, je prends.
Ah, ils sont chauds.
Le dimanche soir, je salive déjà. Je rêve de croûtes gratinées, dorées, croustillantes. Cette délicieuse odeur qui s'engouffre dans mes narines. Midi, l'heure du péché. C'est à midi pile que surgit Madame Vandenput, la cantinière, réglée comme un métronome, avec son accent bien bruxellois. Un chignon prêt à dégainer tel un gant de boxe, un foulard rose cochon noué sur son cou de girafe, deux gros seins pointus comme des obus et ses mollets. Les mollets de Madame Vandenput, je ne peux pas y résister. De jambonneaux, bien fermes, bien gourmands. Parfois, j'aimerais même y planter mes dents. Juste un peu, juste pour voir. Et avec ça, une bonne maillot de chez Léon, évidemment. Mais c'est comme si elle avait un radar. À chaque fois, elle me grille, elle change de posture, elle tire sa jupe, elle se retourne un coup sec. Pas au poker, hein. Mon mollet n'est pas à buffet, gamine. Allez, oust, heure de ma vie. File avec les sœurs jambon. Je traîne les pieds jusqu'à leur table, comme une condamnée à mort qu'on balance dans la fosse au lion. Je reste là, bouche bée, la faim au ventre. Face à moi, trois guignols. Youssef, Soumaya et Guy, le converti. Le Benguigui, arborant fièrement son badge « musulman depuis 2 semaines », avec sa crinière rousse et ses yeux de merlan frit. Il pointe son index dans ma direction. « C'est haram de manger du cochon. Tu vas brûler en enfer !» Lentement, je fais glisser mon pouce sous ma gorge en le fixant droit dans les yeux. Ose seulement le dire à mes frères. Et je t'égorge comme les moutons dans la cour de ma maison. « Raq !» En tout cas, j'irai au paradis, moi, et toi, tu vas griller en enfer. Mais pour qui tu te prends? Pour l'imam de la cantine ou quoi? Tout le monde rigole, sauf moi. Moi, je rumine. J'ai faim. J'ai pas eu ma dose. Et derrière moi, la Vandenput, cette minable, se tient droite comme un piquet, victorieuse, fière de son petit pouvoir. Rigoler. Rigoler seulement. Moi, j'ai mon plan B. Et si vous voulez connaître la suite, bah ça s'appelle « Musulmane et fan de porc ». Ça se passe sur Wattpad, qui est une plateforme de partage d'écriture. Et un nouveau chapitre vous attend chaque vendredi. Alors je vous dis à vendredi.
Merci Farah, et on regardera tout ça. Merci énormément pour cette chronique et puis pour ce livre que tu nous partages. Et bah, il est temps pour nous de rendre l'antenne très très vite. Merci d'avoir été avec nous. C'était la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Je laisse l'antenne maintenant. Merci à tous les bénévoles qui rendent possible ces matinales tous les soirs, 4 soirs par semaine. Merci à tout le monde. Et puis on enchaîne maintenant à 20h avec l'émission La Nouvelle Bouquinerie, votre émission littéraire et poésie. Il y avait Joey en technique et à la réal. Et merci à toutes et à tous, et à bientôt pour une prochaine matinale.